Henri Gréville, jaloux. Le diable emporte les gens qui vous mettent martel en tête, me disais-je en revenant à pied de la ville voisine, à travers les blés jaunissants, sur lesquels le soleil jetait une large nappe d'or rouge. Il fait un temps magnifique, je rentre chez moi, ne devrais-je pas être joyeux et entendre toutes les douces chansons du foyer chanter dans mon cœur. Mais au lieu de cette bonne musique, c'est la voix aigre de la tante Caroline qui me tinte aux oreilles. « Mon neveu, prenez garde à votre femme, vous vous apercevrez trop tard que j'avais raison de vous prévenir. » Il faut croire que l'expression de mon visage n'avait pas été précisément agréable, car en me disant précipitamment adieu, elle avait refermé sur moi la lourde porte au marteau grimaçant, moins déplaisant d'ailleurs que sa méchante figure. Prendre garde à ma femme, mais pourquoi? Je haussais les épaules de pitié. J'adressais mentalement à ma tante Caroline une apostrophe qui n'avait rien de commun avec une bénédiction, et je pris le chemin de mon petit manoir enfoui dans un bouquet de saules, où m'attendait ma chère petite femme. Ma chère petite femme, elle m'attendait en effet. Nous étions convenus depuis 8 jours d'aller faire ensemble cette ennuyeuse tournée de visite, afin d'avoir de temps en temps l'occasion d'échanger un baiser dans un escalier obscur, au risque de chiffonner le chapeau d'Amélie. Et puis, tout à coup, le matin, en revenant déjeuner, je la trouve en négligé blanc, tout semé de rubans bleus. C'était très joli, mais c'était pas précisément une toilette de visite, si bien que je lui proposais de rester au logis tout le jour. « Non, mon chéri, me dit-elle, pour arranger les choses à l'amiable, je vais rester et tu iras tout seul voir l'oncle Auguste, la cousine Ursule et la tante Caroline. » Tout seul, oh, c'était dur. Pourquoi? La réponse fut courte et préemptoire. Je veux rester ici. Je ne pus obtenir autre chose. Force fut de m'habiller et d'aller faire ma corvée tout seul. Pas de serrement de main furtive derrière les portes pour varier la monotonie de cette longue journée. Et pour comble de bénédiction, les derniers mots de la tante Caroline grimaçant à mon tympan. « Prenez garde à votre femme !» Le conseil était absurde, mais pourquoi Amélie n'avait-elle pas voulu m'accompagner? En me posant cette question, je distribuais à droite et à gauche de grands coups de canne sur les blés qui bordaient le chemin. Il faisait magnifique, en effet. Je vous demande pas un peu pourquoi cela me mettait de mauvaise humeur. « Quel dommage qu'il n'ait pas plu averse, me disais-je tout le long de la route. Ma récolte eût peut-être été perdue, mais je ne serais pas allé en ville. Et cet oiseau de mauvaise augure, la tante Caroline, oh diable, la tante Caroline !» m'écriai-je tout haut cette fois. Un frais éclat de rire me répondit dans le bois. Je regardai à droite et j'aperçus une petite femme, toujours en négligé blanc, mais couronnée de bleuets, qui m'attendait, assise au détour de la route. « Que t'a-t-elle fait, cette terrible tante Caroline ?» me dit-elle en se suspendant à mon bras et en me tendant ses lèvres souriantes. « Elle n'était pas bien grande, ma petite femme. Il fallait l'aider à se dresser et baisser un peu la tête pour l'embrasser. » Je n'eus pas plutôt passé mon bras autour de sa taille souple qu'un revirement d'idées se fit en moi et je répondis de tout mon cœur « Bon, c'est une vieille folle !»« Amen !» dit ma femme. « Elle t'a fait faire un mauvais dîner, bien sûr. Bon, je t'ai gardé une aile de poulet et des fraises avec de la crème. Nous allons souper. Que dit-on à sa femme ?» « Merci, ma petite ménagère, » répondis-je en la soulevant dans mes bras, blanche et moelleuse comme une plume de cygne. Pendant que nous soupions en tête à tête, elle avait renvoyé la bonne, un doigt de vieux bordeaux clair comme un rubis dans nos veines, vert de la glace dans une large coupe de cristal, je me trouvais si bien. L'idée me vint naturellement qu'il fallait être archi-fou pour être allé à la ville sous ce soleil et par cette poussière. « Mais pourquoi m'as-tu expédié ce matin ?» dis-je en riant à Amélie. « Ben, il fallait bien se débarrasser de ces vieilles visites oubliées. Mais alors, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi ?»« Oh, voilà, » fit-elle avec un léger nuage sur son frémis-noir. « On n'en avait pas envie. » Elle me dit cela d'une manière si concluante qu'évidemment, il n'y avait pas à reprendre la question en sous-œuvre. Je jetai ma serviette et je me levai. « Oh, le vilain désordre !» dit-elle en ramassant la serviette et en la roulant soigneusement. Je la regardai, ses yeux baissés suivaient l'opération de ses doigts agiles. Elle avait l'air calme et reposée d'une madone du Pérugin. J'eus honte, oh, de quoi, je n'en sais rien. Toujours est-il que je me sentis honteux, et passant le bras autour du cou de ma femme, je l'entraînai vers le balcon. La lune se levait derrière le grand bois. On ne la voyait pas encore, mais ses rayons traversaient la clairière en face de nous et glissaient sur le ruisseau comme des filets d'argent. Un cri d'oiseau se fit entendre dans le lointain. Je regardais Amélie. Ses yeux étaient tournés vers moi. « Je t'aime, » dit-elle en se blottissant contre moi comme un oiseau frileux. « Il y a un an, nous n'étions pas encore mariés. T'en souviens-tu ?»«
Si, je m'en souvenais. »
La route de Massolet à la ville ne me paraissait pas longue dans ce temps-là. Il n'y avait pas un épi de blé, pas une fleur du chemin à laquelle je n'eusse crié « Je l'aime !» en revenant, le cœur débordant d'ivresse, à ce logis où je l'avais amenée un soir d'été, palpitante et pleine de confiance, ayant dit oui pour la vie à l'homme qu'elle aimait depuis 2 ans. Et moi, quand l'avais-je aimée? Je n'en savais rien. Je me semblais de n'être jamais endormi ni réveillé sans son nom sur les lèvres et son image dans les yeux. « Mais je t'aime !» lui répondis-je, et la lune nous enveloppa soudain d'une clarté éblouissante. « Faust et Marguerite !» dit Amélie en riant. « Heureusement, Méphistophélès est en congé illimité. Allons, viens, Faust, tu vas t'enrhumer. » Pourquoi cette plaisanterie me fit-elle un effet désagréable? Mais Amélie ouvrait la porte de notre chambre, je ne vis plus qu'elle. Le lendemain matin, quand je m'approchais de la fenêtre, le ciel était couvert, un rayon jaune se glissait de temps à autre entre les nuages. « Oh, signe de pluie !» dis-je à Amélie, qui se frottait paresseusement les yeux. « Oh, mais non !» s'écria-t-elle, encore à moitié endormie. « Je veux pas qu'il pleuve. Il faut que j'aille. » Elle interrompit brusquement et sourit. « Et où faut-il que tu ailles, ma petite femme ?» lui demandai-je.
« Cela ne vous regarde pas, monsieur mon mari, » répondit-elle avec une petite moue adorable.
« Mais si je veux le savoir. »
Un mari ne doit avoir d'autre volonté que celle de sa femme, et comme je ne veux pas que tu le saches, tu comprends.
« Je comprends, » fis-je d'un air enchanté. J'étais furieux. Ma mauvaise humeur passa avec le rayon jaune noyé dans une petite pluie fine, aiguë, qui rayait perpendiculairement le paysage. Il n'y avait pas à mettre les pieds dehors ce jour-là. « Qu'il fait donc mauvais !» dis-je en tambourinant avec satisfaction sur les vitres.
« Cela t'amuse ?»
fit Amélie, qui n'avait pas l'air de partager mes impressions. « Mais oui, ma chérie, quoi de plus doux ?» que de passer la journée ensemble, enfermés dans cet heureux petit paradis. Tu me feras de la musique, tu me joueras cet adagio de Beethoven, tu sais. » Amélie me regarda tendrement et vint poser sa tête sur mon épaule. Cet adagio, elle me l'avait joué le jour de ma demande en mariage.
C'était pour nous un souvenir plein de félicités indicibles. Ses yeux limpides regardaient jusqu'au fond de mon âme. À mon tour, j'y plongeais mon regard et j'y trouvais cette entière confiance, cet abandon complet qui m'avait rendu si heureux, qui me promettait une longue vie de bonheur. « Et tu ne sortiras pas, mon cher petit despote, » lui dis-je en l'embrassant. Elle me rendit mon baiser, puis une étincelle pétilla dans son regard. Malice ou gaieté? Et nous allâmes déjeuner. La table desservie, Amélie regarda mélancoliquement le paysage. Les cities alourdies s'inclinaient jusqu'à terre. Le gazon était noyé, de larges nappes d'eau marquaient la place des chemins. Nous étions revenus au beau jour du déluge. « Peux-tu sortir en bateau ?» dis-je à ma femme. « Autrement, je ne vois pas. » « Tu crois ?» fit-elle avec un accent railleur. « Allons, viens, que je te joue ton adagio. » Une heure délicieuse se passa à faire de la musique, mais je me rappelle que 5 ou 6 lettres d'affaires gisaient là-haut sur mon bureau. À la campagne, on n'écrit guère que quand il pleut. Malheur aux gens pressés, quand la chaleur, le ciel bleu vous appelle sous la voûte de la forêt. Ma femme, fort affairée dans la cuisine, surveillait certains gâteaux dont j'étais friand et que Monique manquait régulièrement. « Bon, elle en a au moins pour 1 heure, me dis-je. » Et je montais mettre un terme aux malédictions probables de mes correspondants. Ce n'est pas 1 heure, mais 2 que me prirent ces ennuyeux chiffons de papier. Quand je redescendis, ma femme brodait près de la fenêtre de la salle à manger. Un rose vif teintait ses joues, 2 ou 3 gouttes d'eau scintillaient dans ses bandeaux ébouriffés. Elle était adorable ainsi, mais j'avoue que je n'y pensais guère. « Elle est sortie !» fut ma première idée. « Voyons si elle le dira !» fut la seconde. « Mais pourquoi ne me l'aurait-elle pas dit ? Je n'avais qu'à le lui demander. » Mais je n'osais pas. « Il pleut toujours ?» dis-je bêtement. La pluie avait doublé de violence et frappait les vitres avec rage. « Tu vois, » dit Amélie en souriant, « as-tu envie de sortir ?»« Oh non, et toi ?»« Non, certes, » fit-elle avec un joyeux éclat de rire. La pensée me vint qu'elle avait peut-être simplement ouvert la fenêtre pour prendre l'air. Et je me tensais vertement pour les idées baroques qui me parcourait la tête depuis la veille au soir. « Ah, j'ai oublié mon panier dans le salon, » me dit Amélie. « Mon bon chéri, veux-tu aller le chercher ?» Pour aller dans le salon, il fallait traverser l'antichambre. J'ouvris la porte. L'empreinte des pieds mignons de ma femme allait du perron à la cuisine, marquée par des plaques humides. Et par la porte entr'ouverte, il me sembla voir le profil de son waterproof pendu devant le feu. « Mais elle est décidément sortie, » me dis-je. « Quel intérêt peut-elle avoir à me le cacher ?» Pendant que je retournais cette idée dans mon esprit, j'avais mis la main sur le panier d'Amélie. La vue des objets qui le remplissaient changea le cours de mes pensées. C'était de petits morceaux de flanelle et d'indienne de toutes les couleurs, jaquettes et petits bonnets. « Pendant que nous n'avons pas d'enfants, » m'avait expliqué ma femme, « laisse-moi travailler pour les pauvres petits de la commune. Cela nous portera bonheur et plus tard, qui sait, si j'en aurai le temps. » Elle était sortie, certainement, mais pour une œuvre de charité. Ah, comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Elle se cachait pour bien faire. Mon cœur déborda de joie et d'orgueil. En lui rendant son panier, je baisai la main qu'elle avançait pour le recevoir. « Cher Ferdinand, » dit-elle tendrement, « assieds-toi là et causons. L'après-midi s'acheva comme un rêve. J'étais fier de ma femme, j'aurais voulu apprendre au monde entier qu'elle avait bravé la pluie et le vent pour faire une visite de charité. J'avais envie qu'elle sût les sentiments que m'inspirait son dévouement. Au dîner, je dis un pas. « Que t'ont raconté tes chers pauvres ce matin ?» lui dis-je en la caressant des yeux pendant qu'elle retournait la salade. « Mais rien du tout, » fit-elle en posant la fourchette d'ébène sur les feuilles d'un vert tendre. « Par un temps comme celui-là, à moins de mourir absolument de faim, quand on a guère de souliers, on ne se risque pas à traverser le bois pour venir à notre maisonnette isolée. » Je me sentis envahir par une froide stupéfaction. Amélie me passa la salade. Oh, « Je n'ai pas faim, » dis-je sèchement. « Es-tu malade, mon ami ?» fit-elle avec inquiétude. « J'ai mal à la tête, » répondis-je. Il fallait bien un prétexte. Allions-nous commencer à jouer vis-à-vis l'un de l'autre cette comédie méprisable ? Fallait-il désormais nous nourrir réciproquement de mensonges et de soupçons ? Le cœur me manqua en y songeant. « Mais tu es pâle, c'est vrai, mon trésor, » dit-elle en se levant et en me regardant tout près, la main sur mon épaule. « Tu es resté enfermé tout le jour, cela ne vaut rien pour la santé. Tu ne veux pas de dessert ? Attends, je vais te faire moi-même une tasse de bon café. » Je la laissais dire, je la laissais faire, abasourdi par tant de présence d'esprit, tant de duplicité. Comment j'étais là, sous ses yeux, torturé par des soupçons infâmes ? Elle le voyait, puisqu'elle avait remarqué ma souffrance. D'un mot, elle pouvait la faire cesser, et ce mot, elle ne le disait pas. C'est donc qu'elle ne le pouvait pas. Dissimulons, me dis-je. Sans cela, je ne saurais rien. Elle est déjà trop adroite. Elle était bien adroite, en effet, car je ne pus rien apprendre. Faire une question directe, c'était facile. Mais enfin d'un mensonge flagrant, saurais-je me contenir ? Je prétextais un travail important à finir. Malgré les prières d'Amélie, je montai à mon cabinet et je m'ensevelis dans les comptes de fermage. Vers 10 heures, elle monta, un peu triste, un peu inquiète, et me demanda si je n'irais pas bientôt dormir. « Dormir, » répondis-je sévèrement. « Non, non, mes affaires ne s'ouvrent pas de retard. Couche-toi sans m'attendre. »« Pauvre Ferdinand, » dit-elle en m'embrassant au front, « malade et forcé de travailler. Tu viendras bientôt, dis. »« Non, c'est rien, » répliquai-je. « Je t'ai dit de ne pas m'attendre. » Je m'étais mis en effet à réviser les comptes. Heureusement, le travail n'était pas urgent, car je le faisais bien mal. Au lieu des colonnes de chiffres, je voyais s'aligner les arbres de la forêt. Et sous ces arbres, les pieds dans l'eau, l'eau sur la tête, Amélie marchant vite de ce pas fermé léger qui lui était propre. Mais où était-elle allée et pourquoi ne voulait-elle pas me le dire ? Il était 1 heure du matin, ma lampe allait s'éteindre. Force me fut d'aller rejoindre ma femme. Elle dormait, la tête sur son bras, dans ses longues tresses châtain clair, assombries par la lumière incertaine de la lampe laissée à demi. Sa respiration était égale et tranquille. Sa main gauche était posée sur mon oreiller, comme si elle se fût endormie en me tendant les bras. Je sentis mon cœur se gonfler et mes yeux s'emplir de larmes. Elle était si pure dans ce sommeil enfantin. Je m'approchai du lit avec une espèce de remords. Je me sentais coupable de l'avoir outragée, même par un doute. J'avais envie de la réveiller pour lui raconter l'histoire de cette pénible journée. Lorsque j'aperçus un coin de papier qui dépassait d'un tiroir de sa toilette, Elle ne mettait jamais de papier à cet endroit. Qu'est-ce que cela pouvait être? J'ouvris le tiroir avec précaution. Je dépliai le papier suspect et j'y trouvai ces mots. Madame, puisque vous vous chargez si charitablement de terminer mes souffrances, je vous attendrai à la corderie jeudi et vendredi. Samedi décidera de mon sort. Merci pour tant de bonté que je n'avais pas osé rêver. Signé M. La corderie était une ferme à un quart d'heure de quart de lieu sous le bois de notre habitation. Jeudi, c'était hier. Elle m'a envoyé à la ville. Vendredi, aujourd'hui, elle est sortie. Samedi, c'est demain. Je tombai atterré sur la causeuse. Le bruit réveilla à demi Amélie, qui murmura faiblement mon nom. Je retins mon haleine de peur d'attirer son attention. S'il eût fallu lui répondre, je crois que je serais devenu fou de rage et de douleur. Ainsi cet ange, mon Amélie, la femme que l'année précédente j'avais amenée sous mon toit, elle acceptait des rendez-vous, bravée pour s'y rendre un temps abominable et un samedi. Mais que voulait-elle faire samedi? Fuir peut-être? Oh, qu'elle parte, me dis-je désespéré. Qu'elle quitte ce foyer où elle avait apporté la paix et la joie, où elle laissera douleur et mépris. Qu'elle s'en aille, je resterai seul pour pleurer toute ma vie le jour où je l'ai aimée. Elle est si fausse et si menteuse. L'aube naissante me trouva sur le canapé. Amélie n'avait plus remué. La clarté du jour, splendide cette fois, me rappela d'autres sentiments que j'avais oubliés dans le premier épanchement de mon chagrin. « Elle, je puis la pleurer, me dis-je. Mais il y a là quelqu'un qu'il faut que je tue d'abord pour savoir son nom. Encore un peu de patience. » La rage me donna une vie nouvelle. Je ne me souvins plus que j'avais passé la nuit debout. Je m'assis un instant au bord du lit pour faire croire à Amélie que j'avais occupé ma place ordinaire. J'appuyai mon coude sur l'oreiller pour y simuler l'empreinte de ma tête. Moi aussi, pensai-je avec un sourire amer, je sais tromper et mentir. Moi, avant-hier, si confiant, si heureux. La tante Caroline avait raison. Elle connaissait bien la femme qui portait mon nom. Pendant toutes ces réflexions, j'évitais de regarder Amélie. Je sentais qu'à sa vue, mon cœur trop plein eût débordé en sanglots. Je passai dans mon cabinet de toilette et après avoir changé de costume, rafraîchi, un peu calmé, je pris un fusil de chasse et je sortis. L'air était frais, tant soit peu vif, le soleil était levé. Il pouvait être 5h30 du matin. Jamais je n'ai vu plus belle journée. Les alouettes chantaient haut dans le ciel. Je ne sais pourquoi, la fable de la fontaine, l'alouette et ses petits avec le maître d'un chant, me vint soudain à la mémoire. Cette poésie champêtre s'accrochait à moi, pour ainsi dire. Les vers me revenaient l'un après l'autre. Je voulais penser à autre chose et je ne pouvais me débarrasser des rimes familières. Les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe. La pluie de la veille brillait en larges flaques dans les chemins peu fréquentés. Les petits fossés du drainage étaient pleins d'eau jusqu'au bord de temps en temps. Une grenouille verte y sautait avec bruit. Ce côté de mon domaine ne me rappelait rien de douloureux. Peu à peu, mes idées noires s'engourdirent à la tiédeur du soleil levant, au parfum des mantes sauvages qui bordaient la prairie, et une sorte de pitié s'empara de moi. « Pauvre Amélie, me dis-je, Elle m'aimait. Elle a dû souffrir, lutter pour en arriver là. Soudain, je me rappelais son sourire malicieux lorsqu'elle m'avait dit la veille « Tu crois ?» Défi plein d'audace dont je n'avais pas compris la portée et dont le souvenir rempli de dégoût et d'horreur. « Non, mais je les tuerai !» m'écriai-je. Et je pris résolument la route de la cornerie. L'âpre senteur de la forêt bouillée me rendit ma sauvage énergie du matin. J'arrivai à la ferme, décidé à tout savoir, à rencontrer mon rival, à le provoquer, à le tuer sur place, s'il refusait de se battre. J'entrai dans la cour. Les garçons de ferme étaient déjà partis pour le travail. La fermière, sur le seuil de l'étable, traillait une vache dans un vase de cuivre au flanc rebondi. Les canards s'ébattaient avec de grands cris de joie dans une mare grossie par la pluie de la veille. La fermière me salua. « Ah, vous voilà de bon matin, monsieur. Voulez-vous une tasse de lait chaud ?» Je refusai d'abord, mais au bout d'un instant, mon estomac, tenté par la vue du lait mousseux, me rappela que la veille, je n'avais dîné qu'à moitié, et qu'après tout, l'homme est mortel. « Je le tuerai aussi bien après déjeuner, » me dis-je. « Eh bien, » fis-je tout haut à l'infirmière, « vous avez eu des visiteurs depuis peu ?»« Des visiteurs ? Oh non, monsieur Ferdinand, non. Une femme seulement, une dame fatiguée, malade, qui s'est reposée ici ces 2 jours. Une dame ? Ceci dérangeait mes idées. » « Bah, me dis-je, cette femme est payée pour se taire. Et si je l'assommais de me le faire voir, sa dame malade serait bien embarrassée. Et j'allais demander si ma femme était venue la veille. « Non, me dis-je, devant tout le monde, je conserverai son honneur aussi longtemps que faire se pourra. Je ne veux pas que sa honte vienne de moi. » Je remerciai la fermière et je repris en parlant le chemin de la maison. La dame de la cormerie me trottait cependant par la tête et je fis un grand détour avant de rentrer. La promenade avait un peu calmé mes passions surexcitées par une nuit d'insomnie et de torture morale. Je me demandais de temps en temps si j'étais bien sûr de ne pas me tromper d'une façon absurde. Mais la lettre, la malheureuse lettre, je l'avais dans la poche de mon gilet, je l'avais lue et relue 20 fois. Pas de signature. M pouvant signifier Marie aussi bien que Maurice. Mais quelle femme demanderait des rendez-vous secrets quand il était si simple de venir trouver Amélie chez elle? C'est épouvantable, me dis-je, une telle duplicité, tant de ruses, de mensonges à cet âge. Elle a 20 ans, que sera-t-elle à 40? Elle me faisait horreur. Il fallait bien rentrer chez moi, cependant, ne fût-ce que pour la confondre. Aussi bien, j'étais déjà dans le jardin. J'arrivais à pas lents, la tête baissée. Je levai les yeux. Elle m'attendait sur le seuil avec une expression sérieuse sur son joli visage. Sérieuse mais non craintive. Elle se doute de quelque chose, me dis-je, mais évidemment, elle n'a pas peur. Quelle nouvelle histoire va-t-elle inventer? J'essayais de me rappeler quelles anciennes histoires elle m'avait déjà inventées, quels mensonges elle m'avait fait. Et à ma grande surprise, je ne trouvais rien du tout. « Mettez-la droite, me dis-je. Elle s'est arrangée de manière à ce que je ne puisse rien tourner contre elle. Mais j'ai la lettre, je la confondrai. » J'étais arrivé près d'elle. Elle me tendit le front pour recevoir le baiser du matin. Machinalement, je me penchai sur elle et je le lui donnai. « Ah, tu vas bien ce matin, Ferdinand, » dit-elle. « Tu as bonne mine aujourd'hui, le sommeil t'a fait du bien. bonne mine, le sommeil. Elle tombait bien. Elle mentait sans doute. Je me regardais dans la glace de la salle à manger. Elle avait raison, jamais je ne m'étais vu si vermeil. Je maudis le lait de la fermière de m'avoir ôté l'air fatal et sombre qui convenait au rôle que j'avais à jouer dans cette tragédie domestique. Ma femme s'était assise en face de moi. Elle trahissait par instant une légère agitation nerveuse. Sa main tremblait en me passant les côtelettes. J'avais encore faim, cependant. Puisque j'avais tant fait que d'entrer dans la maison et de m'asseoir à table, autant valait déjeuner comme à l'ordinaire. D'ailleurs, par une contradiction inexplicable, la vue de ma femme, qui eût dû m'exaspérer, faisait passer dans mes veines un courant de calme et de repos. Le cœur humain est bien étrange. « Ferdinand, dit-elle, il faut que je t'avoue quelque chose. » Je la regardais avec le sang-froid d'un juge qui examine un prévenu quelconque. « Te souviens-tu de Marianne ? » continua-t-elle en baissant les yeux. Marianne était la femme de chambre de ma femme avant notre mariage. Fille de gens à leur aise, elle avait reçu une éducation très convenable. Mais la mort de ses parents l'avait laissée sans ressources. Elle était entrée au service de Mademoiselle Amélie, qui, tout en gardant parfaitement sa petite dignité, ne l'avait jamais traitée en servante. Mais Marianne avait un cœur. Elle s'était laissée conter Fleurette par un comédien de passage dans notre petite ville, et un beau matin, elle l'avait suivie, nous laissant pour adieu une lettre désespérée où le repentir perçait déjà, mais à côté de l'irréparable. Ma femme en avait eu beaucoup de chagrin. Elle était sincèrement attachée à cette jeune fille. Dans ma vertu de jeune mari, j'avais flétri cette escapade. Et n'étant pas d'accord là-dessus, nous avions cessé d'en parler. Ce nom fut un trait de lumière pour moi. « Oui, fis-je, avec empressement. Oh, je me souviens de Marianne, eh bien !»« Eh bien, » continua Amélie sans me regarder, « elle est très malheureuse. Cet homme est mort du typhus à Lyon. Elle n'a plus rien. Personne ne veut la recevoir. Je voulais te demander, mais tu ne voudras pas. Quoi ? » m'écriai-je avec une vivacité joyeuse qui lui fit lever les yeux. Me permettre de la reprendre, répondit-elle tout bas. Puis elle ajouta très vite. Ferdinand, je te l'ai caché. Elle m'a écrit il y a 15 jours. Tu n'étais pas là quand j'ai reçu sa lettre. Je n'ai pas osé t'en parler. Tu n'étais pas bien disposé pour elle. Et je lui ai écrit de venir, et depuis jeudi, elle est à la Cornerie. J'ai profité de ton absence en ville pour aller lui parler. J'y suis retourné hier. Elle n'avait plus de souliers, Ferdinand. Elle a tout vendu pour soigner cet homme. Après tout, elle l'a aimé. Ce n'était pas son mari, je sais bien, mais puisqu'il est mort, faut-il le laisser... la laisser mourir de faim, ou pis encore. Toi qui es si bon, si généreux, mon petit mari. Mais tout de suite, m'écriai-je, amène-la tout de suite. La voilà qui vient, dit Amélie, en me montrant Marianne, vieillie, fatiguée, et les yeux usés par les larmes, qui montaient péniblement notre perron. Marianne pleurait. Amélie pleurait. Moi, enfin, ceci ne regarde que moi. J'aurais voulu me mettre à genoux devant ma femme. J'étais inondé d'ivresse. On m'aurait demandé de donner ma soleil. Je crois que j'aurais signé dès demain, seulement pour le plaisir de jouir en paix de mon bonheur. Ma femme, ma chère Amélie, disais-je quand nous fûmes seuls en courant ses mains de baiser. « Mais c'est moi qui devrais te remercier, » répondit-elle. Je sais que tu as eu à vaincre pour me plaire un préjugé très tenace, et c'est toi qui as l'air de me rendre grâce. Oui, je te rends grâce, et à Marianne, et au monde entier, pour m'avoir appris quel trésor, quel ange de femme j'ai reçu en partage. Enfant, répondit-elle en souriant, enfin je te retrouve. Hier, tu m'as inquiété. Sais-tu que tu as été très malade sans qu'il y paraisse? J'ai eu peur que ce ne fût un commencement de fièvre chaude. Ou de folie, interrompis-je en riant. Il n'en faudrait pas rire, continua-t-elle en me regardant avec cette bonté compatissante qui la rendait si chère aux petits et aux infirmes. Tu ne peux pas t'imaginer combien ton visage était changé. Quelle expression singulière assombrissait tes yeux. Il fallait que ta souffrance fût bien vive. Je l'embrassai, incapable de lui répondre ou d'affronter son regard plus longtemps. Si elle savait ce que j'ai osé supposer, pensais-je, elle en serait malheureuse toute sa vie. Elle l'ignorera toujours. Puisque tu es si bon, me dit Amélie à l'oreille, je te ferai une confidence. C'est que Marianne nous sera nécessaire pour bien des soins affectueux. La tante Caroline a rendu sa vilaine âme au Seigneur. J'ai un fils. J'espère bien que l'âge venu, il sera moins absurde que son papa.